to the rhythm.
Jour, c'est que les jeunes, il devrait pas y en avoir. Et puis c'est tout.
Hey, je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à tout continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Avec votre équipage habituel, Jeanne Padawan et Olivier, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda la voyante, Pierre Filantia, notre maître nageur, Vincent Turban, mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Nifl. Hey,
bonjour à tous et bienvenue sur Radio Libertaire. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 20 mai, il est 15h01. Il fait beau, on est content, on est en bonne compagnie. Nous quittons aujourd'hui les calanques de Marseille où nous avons laissé à quai Bernie Bonvoisin et Christina Rosmini. On leur souhaite un joyeux séjour et nous nous dirigeons aujourd'hui vers New York. Pour ma part, j'ai enfin passé mon permis bateau, ouf, vous vous dites. Et oui, je suis de retour à bord de Dépêchez-vous de rester jeune. Salut Olivier, contente de te retrouver.
Très heureux de te retrouver également à notre bord.
Nous sommes avec votre équipage, Jack Marshall. Salut Jack.
Bonjour, il fait 40 degrés sur Paris. Hein.
Tu nous parleras en fin d'émission du photographe Denis Maurice et tu lui feras un hommage aussi à Dany qu'on a reçu dans cette émission il y a 3 ans. Salut Vincent Turban.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va super.
Tu nous parleras aujourd'hui de Mandrill, Mandrill le groupe de musique et non le primate, c'est logique. Mafalda nous parlera dans son post-scriptum également du festival de Cannes et des restrictions sur les tenues vestimentaires. Et pour cette croisière, nous embarquons avec nous Charles-Élie Couture. Bonjour Charles-Élie.
Bonjour, bonjour, je suis un peu à sec. j'ai trop donné à
Caluire.
À Caluire.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et Christine Bérou.
Bonjour, Christine, c'est pas du tout la même intro. Pas du tout la même voix, hein. On est sur un contraste assez fort aujourd'hui.
Pauline Chauvet est de retour à bord de notre paquebot. Elle est au loin sur le pont. On la salue. Bonjour à tous les trois. Bon, ça va bien, à part l'extinction de voix.
Mais tout va bien. Hein.
Je vois que vous avez un peu de mal à enfiler vos brassards, mais c'est bon.
Bon, je sais nager,
on
ça
peut
devrait
y
aller.
Très bien, alors c'est parti.
Tel un peintre maniant les aplats de couleurs sur sa toile et faisant émerger du néant la beauté du monde, cette beauté que seul l'artiste entrevoit au travers des interstices qui laissent passer la lumière, Charles-Élie Couture imagine sa vie comme on envisage une œuvre d'art. Deux hémisphères cérébraux qui cogitent en permanence, jamais au repos. Des chansons, des livres, des tableaux, des dessins. Une vie complète au service de la création sous toutes ses formes. Une vie belle et riche comme un poème rock.
C'est gentil, quelque chose comme ça.
C'est ça. On faisait remarquer à Jean Cocteau qu'il était pluridisciplinaire, qu'il en faisait beaucoup dans tout un tas d'arts différents, et Cocteau répondait « Je me repose d'un art dans l'autre ». Est-ce que tu te reposes beaucoup?
C'est marrant que tu cites Cocteau, parce que quand j'étais adolescent, c'était quelqu'un dont la démarche de vie me stimulait, parce que non seulement il était académicien, poète, et tout le monde connaît son travail de poète, mais moi j'étais particulièrement sensible à ces peinture et, bah, disons, à ses dessins plus qu'à ses peintures, mais et surtout à ce qu'il a fait et les inventions qu'il a apportées dans le cinéma. Le testament d'Orion, d'Orphée.
Ouais.
C'était des. Ou La Belle et la Bête sont des pièces majeures qui ont fait avancer le cinéma, justement, parce qu'il avait un regard. De cinéaste qui était un regard de poète. Et c'est la poésie qui est la clé de voûte de tout mon édifice, si je puis dire. Parce que c'est ça qui m'incite à me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Quand on visite sa maison à Milly-la-Forêt, on voit un extrait d'interview de Cocteau, justement, où, dans lequel il dit « Plus important chez un peintre, c'est en fait le trait ».
Non, en fait, le plus important chez un artiste, c'est de jouer, c'est de s'amuser. C'est des... Alors, on le fait, mais pour un artiste dans le sens large du terme. On le fait avec les atouts que la nature vous a donnés. On le fait avec ce qu'on a appris. C'est toujours la même chose. Une part d'inné, une part d'acquis et une part du monde. Et mais l'important, c'est de garder cette envie de jouer, de se mettre au défi, d'essayer des trucs. Pas de répéter, sinon on devient un artiste fonctionnaire, un gars qui bosse, mais bon, disons un artisan qui connaît sa méthode et qui sait vers quoi il se dirige. Mm-hmm. C'est des activités différentes. Artiste et artisan, c'est des jumeaux, mais qui sont pas du même œuf, mm-hmm. on va dire. Mm-hmm. Il y en a un qui a la conscience de ce qu'il cherche à atteindre et l'autre qui cherche sans savoir exactement où il va. Ouais. Il y en a un qui est un éclaireur et il y a un autre qui est plutôt un archer.
Et toi, tu sais où tu vas ?
Ben non, en fait, toute ma vie j'ai cherché, ouais. Et c'est ce qui a fait le périple de mon existence. Mmh. Alors oui, bien sûr, je me fixe des espèces de destinations comme ça, mais elles sont mentales. Je sais jamais exactement ce que ça va devenir, et c'est ça qui est l'amusant entre guillemets, ouais, du truc. Ouais. L'expérience, le métier, la connaissance de son savoir-faire, tout ça, ça te permet d'aller plus loin dans un certain temps, mais ça ne te donne pas de réponse, ouais. Ou plutôt, si tu es mené par cette quête de la maîtrise, ben ça fait que tu vas répéter le même geste. Peut-être d'une manière idéale, hein. C'est pas, j'ai rien contre, disons, il n'y a pas de conflit entre artiste et artisan, mais simplement c'est pas la même chose. L'artiste ne sait pas ce qu'il va atteindre, alors que l'artisan a une idée précise de ce qu'il veut atteindre.
Quand on parlera musique dans quelques minutes.
C'est pareil dans tous les domaines de l'activité humaine.
Oui, bien sûr.
Qu'il s'agisse de plomberie, de planter des choux, etc. Ou bien effectivement, sûr, pratiquer ce qu'on appelle les beaux-arts, etc. Ouais. Qui sont une activité spécifique liée à la figuration des émotions, mm-hmm, de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ouais. Mais ce que je disais, être un artiste, c'est vrai dans le sens large des choses. On peut être, quelle que soit la profession, mm-hmm, qu'on fait, ou bien on l'exerce avec une idée préconçue de ce qu'on cherche à atteindre, ou bien on l'a fait avec, encore une fois, ce côté un peu ludique que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de partir dans l'idée de « Oh, tiens, je vais essayer ça, mmh, tiens, je vais, mmh, essayer, mmh, ça. »
Quand tu fais un album, tu récupères, enfin, tu agglomères une dizaine, douzaine de chansons pour faire un disque. Ouais. Quand tu fais des arts plastiques, en général, toi, tu travailles beaucoup par série. Est-ce, oui, que tu associes ce travail un peu au travail de la musique, c'est-à-dire que tu fais des séries, là j'ai vu, il y a des Rimbaud, oui, qui sont magnifiques, il y a des voitures, enfin, qui sortent
moment,
de casse.
En ce moment, je suis sur les bagnoles.
Voilà, des voitures qui sortent de casse, qui sont oui, très ça, poétiques et très belles, malgré tout.
En fait, c'est la symbolique de ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est, j'appelle la série Les tôles froissées de nos vies cabossées. Ouais. Là, j'ai quitté mon atelier pour venir ici. J'ai fait un grand dessin ce matin d'une bagnole. Ouais. Et en même temps que je la fais, ben, je sais pas, c'est comme une méditation sur ce que devient le monde qui se veut beau comme, mm-hmm, une carrosserie construite, maîtrisée, etc. et qui s'en fout plein la gueule, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Donc, d'où te vient ce goût de la série, justement ?
Ben, en fait, l'idée, c'est de se transcender. C'est-à-dire que quand je commence, tu disais tout à l'heure, je sais pas où je vais, mm-hmm, mais je connais pas ma limite. Celui que j'ai fait aujourd'hui, j'ai passé 4 heures dessus, j'ai démarré sur une feuille noire, par exemple. Donc, en accumulant les blancs, les lumières. Hier, j'avais travaillé sur des papiers buvards, donc c'était plus à l'eau, tu vois. Et en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui va donner quelque chose qui reflète un peu mon état d'âme. Mais alors qu'il y en a qui vont utiliser toujours la même méthode, oui, oui, les mêmes crayons, les mêmes, uh-huh, les mêmes mélanges, etc.
C'est marrant, on parlait de Cocteau, et c'est vrai que Cocteau a fait énormément de séries de profils.
Lui, il faisait tout le temps la même chose.
Le même profil.
Toujours un trait.
Oui,
un trait. Très simple.
Oui.
C'est ce qu'on appelle là, en l'occurrence, les artistes obsessionnels,
ouais.
C'est-à-dire qui répètent à outrance le même geste. Et la quête qui est la leur, c'est un petit peu comme un mantra, comme quelqu'un qui répète une même phrase, et puis qui tout d'un coup va prendre une autre portée.
Ouais.
Mais ça, c'est encore différent de l'artisan qui, lui, vise à atteindre un produit fini, encore une fois, qui connaît dont il a l'image quand il commence à travailler.
Et toi qui as pratiqué les arts martiaux, tes ceintures noires de karaté.
Oui. C'est ce qui m'a appris à chanter. Alors je peux pas vous en faire la démonstration.
Non. Alors ni de karaté ni de chant. Hein, on est bien d'accord. Mais la pratique des katas en karaté, c'est la même chose. C'est la répétition du geste qui est identique, mais jamais tout à fait le même, mais pour atteindre une espèce de perfection.
Et
qu'on n'atteint jamais.
Deux personnes faisant le même kata ne vont pas l'interpréter de la même manière, comme les interprètes de musique classique qui, sur une même partition, vont faire émerger des choses qui n'ont rien à voir, qui peuvent être très différentes d'un interprète à l'autre.
Oui, t'as fait, on sait tout ce que tu as fait les Beaux-Arts, le piano à 6 ans.
Oui,
la photo à 10 ans,
8, ans
la photo à 10 ans, et puis alors tu découvres, à peu près, une dizaine d'années, et découvres, tu tombes en extase au cours d'une exposition à 12 ans, une exposition dadaïste à Nancy.
Oui.
C'est ce cumul de toutes ces activités-là qui te meut aujourd'hui encore.
Disons que quand je suis retrouvé devant cette œuvre, qui était une œuvre de Marcel Duchamp, qui était présentée dans ce cadre effectivement d'une exposition dadaïste, je me suis dit, mais c'est ça ma vie. Je ne sais pas pourquoi, quand la profondeur de ce que tu dis n'a pas forcément de rapport avec ton âge. Je connais des personnes âgées qui disent des trucs enfantins, et je connais des enfants qui disent des choses d'adultes. Mais là, c'était comme une espèce de
d'évidence
de trucs qui transcendaient, et il n'y avait rien. Ça, il fallait que je le fasse, quoi. Et c'est ce que j'ai continué à faire malgré tout, porté par cette envie que j'évoquais tout à l'heure de me remettre en question d'une façon systématique, plutôt que d'obéir à l'ordre de ce qu'on me demandait d'être.
Les Beaux-Arts, c'est une école.
Ouais.
La chanson, il n'y a pas d'école. Donc tu as suivi quelle école pour la chanson?
Non, tu as raison de le dire comme ça. Il y a des écoles de chansons, bien sûr. Il y a des gens qui apprennent des méthodes, des techniques pour chanter. Moi, je n'ai pas appris de méthode ou de technique de chant. Par contre, j'ai appris à dessiner, à peindre, à faire de la photographie, à sculpter, à faire de la gravure. Enfin, j'ai appris des méthodes, en maniant certains outils. Et ça, je n'ai jamais cessé de le faire. Quand je suis parti à New York, 15 ans, où j'ai habité là-bas, je vivais que de ma peinture, pas du tout de la musique.
Il y a eu un petit concert à Central Park.
Oui, il y a eu quelques concerts, mais pas de quoi me donner le moyen de vivre.
D'accord. On écoute un premier extrait du dernier album, Contre toi.
Avec toi, oui, je veux être avec toi, tout contre moi. Contre toi, oui, je veux être avec toi, tout contre moi. Sentir ta peau sur ma peau, te murmurer quelques mots qui s'évaporent dans l'été comme un parfum d'éternité. Avec toi, oui, je veux être avec toi, tout contre moi. douceur et plus encore te caresser au cœur à cœur, loin de la douleur de nos rancœurs. Avec toi, oui, je veux être avec toi, tout contre moi. Chercher la paix comme un mantra et me blottir entre tes bras. Avec toi, oui, mieux être avec toi, tout contre moi.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Toi, donc un titre de Charles-Élie Couture qui est à bord de notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune.
On a parlé beaux-arts, on a parlé peinture, et en fait, quand je regarde toutes les activités que tu as, je pense que j'ai l'impression qu'il en manque une seule à ton arc, et c'est peut-être la primordiale, la plus importante, c'est le cinéma en tant que réalisateur.
Ah, oui, j'aurais voulu être cinéaste. Ouais. C'était en fait ce vers quoi je me dirigeais quand je suis entré aux Beaux-Arts. J'avais le secret espoir d'entrer dans le cinéma par la petite porte, c'est-à-dire devenir décorateur de cinéma, et puis entrer par ce biais-là. Et puis, il s'est trouvé que quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai donc appris des tas de techniques, et à chaque fois, ça me donnait envie d'essayer des choses. Et à la fin de mes études aux Beaux-Arts, que je me payais mes études en jouant à gauche et à droite, en faisant des petits concerts, il s'est trouvé que j'ai fini par en enregistrant un disque qui faisait partie de ma thèse sur la polymorphie de l'esprit, enfin, qui tend à dire que la personnalité, quand on parle d'une personnalité, en fait, ça n'existe pas, la personnalité. Une personnalité, elle est faite d'un amalgame d'êtres qui se chevauchent, qui se remplacent, qui, etc., un petit peu comme le Mika, et qui apparaissent différentes selon les situations. Et une même personne peut être à la fois quelqu'un de sympathique pour ses copains de boulot et un infâme tueur dans d'autres circonstances.
Si vous avez des noms, c'est bien, parce que ça ferait des écoutes sur le podcast.
Il y en a plein les journaux, des noms comme ça, de gens qui, dans certaines situations, sont charmants, voire même capables d'actes de bravoure et de choses comme ça, et qui, dans d'autres situations, s'avèrent être des lâches, des dégonflés,
des
ordures. Tu prends un supporter de foot tout seul, c'est un gars qui est fasciné par quelque chose, tu le mets dans une meute, ça peut être un vrai connard, mais etc. Enfin, de n'importe quoi, c'est pareil. C'est la thèse que je développais était en montrant différentes personnalités et différentes choses que j'avais faites dans des états différents, tendait à répondre à l'idée que ma personnalité, c'était toutes ces choses-là. Et parmi ces choses-là, il y avait donc un disque que j'avais enregistré qui s'appelait 12 chansons dans la sciure.
Le premier, autoproduit.
C'était la période punk. Je me disais, j'ai rien à perdre.
Allons-y.
Et puis, il s'est trouvé que ça en a amené un autre qui s'appelait Le Pêcheur, et puis un autre, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, le grand public m'a découvert à travers cette activité de chanteur, en occultant complètement tout ce que j'avais à côté, parce que le principe des médias, c'est de simplifier pour donner une seule poignée à la valise. S'il y a des trop... Et quand on m'invitait et que je parlais de peinture ou de dessin, ça faisait chier les présentateurs, donc le coup d'après, il c'était pas celui qui préférait inviter, parce que j'étais un peu fuyant. Et donc, mais c'était ma personnalité. Il y a des gens qui sont des spécialistes du lancer du fléchette, et puis il y en a d'autres qui sont des heptathloniens ou des triathlètes, en l'occurrence, un peu ce que
toi, t'es un décathlonien de l'art.
Peut-être pas décathlonien, je me compare plutôt à triathlète, parce que je fais des choses en écriture, beaucoup, c'est vraiment ce que je fais le plus, en musique, bien sûr, et puis en peinture, dans les arts visuels d'une façon générale.
T'as deux... j'ai cru comprendre que tu avais deux idoles qui s'appellent Jacques Brel et Arthur Rimbaud.
Alors, bon... Dans le domaine de la musique, disons, dans le domaine de l'intensité de ce que c'est qu'un chanteur, artiste justement, Brel était pour moi quelqu'un qui pénétrait la vérité d'une certaine culture bourgeoise, certes, mais avec une vérité,
une sincérité,
et une sincérité qui était éblouissante. Ouais. Et d'ailleurs, rares sont les grands chanteurs qui, après, sont arrivés à faire une carrière en tant que comédien. Mmh. Et Brel, quand il jouait la comédie, il était tout aussi crédible que quand il chantait. Donc, c'était un personnage, oui, que j'aurais voulu rencontrer, ne serait-ce que pour lui serrer la main. Et Arthur Rimbaud, alors ça remonte à avant, quand j'avais 15 ans, je comprenais rien à ce qu'il disait, mais ça me fascinait parce que je devinais en transparence, si je puis dire, la force d'une écriture, d'une liberté absolue. Et cette liberté absolue, elle était en amont de la psychanalyse, du surréalisme, de beaucoup de courants d'expression qui ont découlé et qui se sont développés après, mais qui a déjà en puissance. Ouais. Donc, Rimbaud, ce qui est fascinant, c'est l'intensité avec laquelle il a su mettre, à une époque où la morale était importante, où le blocus familial était quelque chose de rigoureux, et ben, malgré tout, à travers ça, en électron libre, il est de ceux qui a changé une forme d'expression littéraire, écriture, etc.
Il était torturé aussi par cette morale, la religion, c'est des thèmes qui reviennent beaucoup.
Mais on est tous torturés. Et c'est pas le tout d'être torturé. Il faut avoir l'habilité à se défaire de ces contraintes qui faisaient effectivement souffrir certainement des milliers d'autres gens à la même époque, mais qui compensaient par l'alcool, par ci, par ça. Ce qui ne signifie pas que lui n'en a pas pris, mais pendant 2-3 ans de sa vie, c'est une période très courte, ce mec a tout d'un coup explosé tous les codes, et c'est ça qui me fascine encore aujourd'hui, mais que j'avais pressenti, si tu veux, quand j'avais son âge. Si
à noter que les deux, d'ailleurs, ont arrêté leur activité quasi en pleine gloire, Brel en décidant d'arrêter de faire de la scène, et Rimbaud en décidant d'arrêter d'écrire et de se consacrer à autre chose, et de partir au bout du monde, en Abyssinie pour Rimbaud, dans les Marquises et en Polynésie pour Brel, visiter le monde. Ouais. Il y a eu des parcours un petit peu similaires.
Oui, faut faire attention. Je parle pas. Je comparaison.
Non, mais comparaison n'est pas raison. Je parle pas. Je dis pas que Brel équivaut Rimbaud, mais je veux dire, ils ont eu.
Ah non, mais
à un moment ils sont arrêtés en pleine gloire, vive.
Oui, mais c'est pas ça qui fait le truc. Brel, malheureusement, a été interrompu par un cancer qui l'a empêché aussi de poursuivre une autre route. Il y a plein de... J'étais à ce moment-là dans ma première vie.
Ouais. J'ai eu 5 vies, tu dis.
Voilà, je suis dans la 6e, là. si, c'est... Non, c'est pas...
Okay.
C'est pas rigolo. C'est, je me suis rendu compte. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation l'autre fois avec le rugbyman qui a perdu complètement le souvenir de
Chabal,
oui, de ses premières années. À moi, c'est un petit peu la même chose. Je constate que, alors certains appellent ça des chapitres, mais en fait, c'est des vies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ma première vie, jusqu'à 25 ans à peu près, c'est la vie de tout le monde, c'est-à-dire comparer mes aspirations personnelles avec les quelques 25 à 30 personnalités supérieures qui me fascinaient et auxquelles j'essayais de ressembler à ma manière avec ce que je pouvais. Ça a duré jusqu'à ce que j'atteigne d'une manière particulière pendant 7 ans à peu près une deuxième vie qui a été une vie de star, qui a fait que j'étais plus connu que je ne le méritais, plus aimé que je ne le méritais, plus détesté que je ne le méritais.
Certainement.
Et en tous les cas, je ne m'appartenais plus. Et j'appartenais aux gens qui me disaient « Charles-Élie Couture, c'est ci, Charles-Élie Couture, c'est ça ». Et après, à 33 ans, j'ai dit « fuck off » et je suis parti en disant « être un artiste, c'est bien, mais être un homme, c'est mieux ». Et pendant 15 ans, j'ai essayé de profiter de ce que la notoriété me donnait encore, de la possibilité d'être libre, mais d'élever mes enfants aussi, avec qui j'ai pu du coup établir une relation qui est toujours aussi forte aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, devenir un homme. Et puis après, à un moment donné, j'avais une quarantaine d'années, mon père est mort, qui lui m'avait servi de guide, on va dire, pendant des années. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé de partir, me réinventer, recommencer ma vie justement à New York. Ça a été ma quatrième vie, qui a duré 15 ans. Ouais. Où j'ai eu une galerie, j'ai vécu de la peinture plus que de la chanson. On m'a oublié en France, et petit à petit, mais j'en souffrais pas du tout, parce que j'avais l'impression vraiment d'être un homme plein et de me réaliser dans ce que j'avais à faire. Et puis arrivé la cinquième vie, je suis revenu en France. Effectivement, pendant 7 ans, j'ai dû combattre un cancer et continuer à me bagarrer avec ce que la vie m'imposait, mais dans une France qui me permettait de me survivre. Et puis maintenant, je suis dans la sixième, puisque le cancer est parti à la poubelle il y a un mois et demi.
Magnifique.
Et que je me reconstruis maintenant, mais bon, ad libitum.
Tout semble possible quand on est amoureux sur une terre en paix, sans conflit guerrier. Rien avant nous n'a jamais existé. L'amour, c'est de l'espoir à deux. On s'imagine des destins extraordinaires. On est sûr du futur, ouais, c'est dans la nature. Promets tout ce qu'il y a de mieux quand on est amoureux. L'amour est toujours optimiste. Ouais, l'amour est toujours optimiste. On est riche de tout, même sans un radis. Quand on croque la pomme, on est au paradis. Grimper au mât de cocagne, traverser des montagnes, échafauder 1000 projets de châteaux en Espagne. Changer de numéro, repartir à zéro, ou rêver d'un palais et croire ce qui est beau. Au soleil levant, quand le ciel est radieux, on se sent puissant quand on est heureux. On se promet tout ce qu'il y a de mieux.
optimiste. L'amour est toujours optimiste. Ouais, l'amour est toujours optimiste.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Il est 15h30 et vous êtes sur notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune. On vient d'entendre L'amour est toujours optimiste. Un titre donc de Charlélie Couture qui est avec nous.
Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, tu as sorti tes premiers albums à la fin des années 70, 78, 79. Oui, le Pêcheur, c'est 79. Ça, ouais. Et en 81, il y a la signature dans ce label extraordinaire américain qui s'appelle Island Records.
Oui, Chris Blackwell.
Chris Blackwell. Qui, alors, est-ce que tu étais le seul français? Parce que dans la liste des artistes signés chez Island, je n'ai trouvé que ton nom en francophone.
C'était moi le premier.
Ouais.
Il y en a eu un ou deux autres, ouais. Mais ça n'a pas duré.
parce que quand même chez Island, Roxy Music, Jethro Tull, U2 et Bob Marley.
Oui, ben, l'histoire est amusante avec U2 parce que celui qui m'a présenté à Chris Blackwell, c'était un type qui s'appelait Jean-Henri Meunier, qui était réalisateur de cinéma, qui venait de faire la bande du Rex et qui connaissait bien Blackwell. Et quelques temps avant, il avait proposé à Blackwell le groupe Police. Et puis Blackwell avait fait le difficile, non, c'était pas trop son truc et tout ça. Mais il lui avait dit, écoute Jean-Henri, si t'as autre chose comme ça, n'hésite pas à venir me voir. Et c'est ce Jean-Henri Meunier qui, un jour, alors que il me présentait la pochette du premier disque de U2 que Blackwell venait de signer, qui m'a dit, écoute, je pars demain en Jamaïque pour voir Chris, et je vais lui amener ta cassette, etc. Et l'histoire veut que l'autre était dans la piscine quand il a mis la cassette, et il est sorti de l'eau en disant, je le signe, et ma vie a changé à cet instant-là.
Quelle belle histoire. Vincent, peut-être une anecdote sur Island, ou une info?
Une info, non, plutôt une question. Parce que Chris Blackwell, c'est un grand nom, c'est un sacré producteur. En fait, ma question, elle est toute simple. Est-ce que Chris Blackwell t'a laissé une liberté artistique totale?
Absolue. Et même, il m'a piégé quelque part parce que il m'a dit que j'étais un grand producteur et malheureusement, je l'ai cru. et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup produit mes albums. Et alors que quelquefois, j'aurais peut-être dû me confier au savoir-faire d'un autre. Mais pendant les 5 albums que j'ai fait chez eux, c'est moi qui ai décidé de partir pour créer ma propre structure. On a gardé de très bonnes relations et il m'a toujours laissé libre. Il était très fier du premier disque qu'on avait fait ensemble, Pochette Surprise, avec les Anglais en vacances et tous ces morceaux-là, la balade du mois d'août 75. Et jusqu'au bout, on a gardé des bonnes relations. D'ailleurs, quand je suis allé à New York, je l'ai revu, il m'a accueilli dans son appartement au bord de Central Park et c'était très sympathique.
Donc sur l'album Poème Rock, c'est celui qui change
ta vie. C'est le deuxième.
C'est celui qui change ta vie. Avec oui, comme un avion sans ailes.
Parce que là, tu vois, justement, j'ai été produit par Michael Zilka et qui a certainement repéré l'avion sans ailes que j'avais pas vu moi-même.
Ah oui.
Pour l'anecdote,
ouais.
Michael Zilka venait avec une boîte de disques qui s'appelait Z Record et il travaillait avec Lydia Lunch et Kid Creole et tout un paquet d'artistes et donc il faisait cette production pour Chris et il venait au studio Electric Lady qui était le studio de Jimi Hendrix où on enregistrait et le soir il faisait ses commentaires et puis donc dans la journée on enregistrait les chansons et il arrive un soir et il dit: oh, mais c'est bien ça, cette chanson. Là, le jingle qui est à la fin, là, il faut que tu le mettes tout le long de la chanson. Et là, le jingle, il faisait... puis moi je dis, mais non, c'est pas question, là la fin c'est bien. Non, non, il faut que ça vienne, que ça revienne. Puis je chantais faux, et puis on cherchait quel était le jingle qu'il appelait. Et donc il a vraiment insisté pour que ça devienne une ritournelle, ouais, en fait, gimmick, ce qui n'était pas du tout mon
intention première
au départ. Et puis je me suis laissé faire, et c'est lui qui avait raison, quoi.
Ouais. C'est un album sur lequel il y a un avion sans aile, mais il y a aussi, ouais, le fauteuil en cuir,
l'histoire du loup dans la bergerie.
Du loup dans la bergerie, enfin, c'est, ouais, c'est un album.
La balade de Serge K aussi.
De Serge K, enfin, c'est...
Aussi.
Pardon ?
Oublié.
Oui, c'est quand même un album fondamental dans la discographie, dans ta discographie.
À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de Français qui chantaient la vraie vie, si je puis, ouais, dire, en rock. Ceux qui s'occupaient de chanter la vraie vie, c'était les chanteurs. Mmh. Et le rock, c'était pour ceux qui allaient chercher du bastringue, mmh, dans l'idée Rolling Stone, le rock, mmh, on défonce, etc. Et utiliser l'énergie du rock pour raconter l'intensité du secret, si je puis dire, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient.
Est-ce que Jacques Higelin n'était pas un peu dans cette veine-là à partir
mais
de
Jacques
75 ?
Jacques Higelin venait de la chanson, oui, il ne venait pas du rock, lui.
Non, mais à cette période-là où toi t'es apparu, lui, il avait déjà tourné, oui, la, oui, page en 75 avec BBH 75. Et
oui, il avait en fait... Higelin, c'est pas une querelle d'experts, hein. Higelin avait électrifié sa chanson, ouais, et il a toujours gardé le côté chanteur, ouais. Il n'était pas dans le trip provocateur du rock. Moi je l'avais, mmh, qui n'était pas forcément une bonne chose, mais j'étais un insolent, moi. et alors que Jacques Higelin était plutôt quelqu'un d'assez complice avec son public,
ouais, ouais.
Moi j'ai toujours provoqué les gens, essayer de les faire réagir, mais par rapport à leurs impressions, pas en leur disant ce qu'il fallait faire. Ouais.
Et donc cet album-là, Poème Rock, avec L'Avion sans aile, te propulse au statut de, alors on va dire, de grande vedette, pas dire star, mais de très grande vedette.
Ouais,
et toi, tu le dis toi-même, ça a duré quelques années.
7 ans.
Et tu t'es lassé de ça, et c'est toi-même qui a décidé de t'extraire de ce monde-là.
Il y a un mélange. Les gens, d'abord, quand j'ai arrêté mon contrat, mmh, avec Highland, ça a fait chier les journalistes, parce que ce qui était bien dans Highland, c'était de dire « Ah, le premier Français signé sur Highland ». Et moi, ça me cassait les burnes que d'être toujours valorisé par la signature anglaise. C'est comme quand tu cites un tel et que tu dis « c'est son manager, c'est un tel ». Tu finis par plus savoir qui est qui. Comme j'avais signé un beau contrat de 5 albums avec Highland, quand c'est arrivé à terme, j'ai demandé, en plus, comme ils n'étaient pas encore installés en France à ce moment-là, c'était compliqué. Chaque fois qu'il fallait prendre une décision, il fallait que j'aille à Londres. C'était compliqué. Mais donc, j'ai repris mes billes. Et là, alors, les médias, il n'y avait plus rien à dire que de se foutre de ma gueule parce que j'étais Lorrain, mmh, et que c'était le Lorrain, la barbichette et la voix nasillarde. Mmh. Et là, on a commencé à entendre ça et réentendre. Donc, à un moment donné, ça m'a pompé le dard.
Donc, t'es parti, t'as tout quitté.
Mais tu t'es extrait.
Est-ce que t'as la sensation de t'être extrait de ce qu'on va appeler le show business français?
Non, je me suis dit, tant qu'à faire d'exister, je vais exister pour ce
autonome
que je suis.
Ouais.
Donc, tant pis si c'est moins brillant, mais au moins, je serai moi-même.
Ouais.
Je trouve que c'est encore plus... Tu vois, par exemple, quand à ce moment-là, les maisons de disques finançaient des clips vidéo. Et ils étaient prêts à mettre des grosses sommes d'argent pour que les clips brillent. Sauf que ces sommes d'argent qu'investissaient les productions, elles étaient quand même sur ta facture. Mmh. Donc, eux, ils payaient quelquefois un clip qui coûtait la moitié du disque, mmh, pour 3 minutes... Mmh. Et qui était quelquefois réalisé par des cons, et qui ne comprenaient pas la chanson, mais ça t'arrivait sur ta facture.
Ouais, c'est toi qui payais à l'arrivée.
Et après, à l'arrivée, c'est toi qui payais. Donc, j'aimais mieux revenir à des proportions, des structures plus simples, mais que je pouvais
que gérer.
Assumer.
Ouais, tout à fait.
Ça fait des années qu'on se connaît, tu sais tout de moi, ou presque. Ça fait des années qu'on se connaît. Je sais tout de toi, ou presque. Je sais ce presque qui fait le charme autant qu'il nous désarme. Ça fait des années qu'on se connaît, on peut parler de fusion. Ça fait des années qu'on se connaît, et dans toutes les positions. Quand tu visais le cochonnet, je redoutais ta précision. Distance n'y change rien, où que tu sois t'es près de moi. Et la distance n'y change rien, même loin tu es là. C'est une histoire sans queue ni tête. En fait, c'est un peu tout à la fois. Find me for sure. Ça fait des années qu'on se connaît, tu sais tout de moi ou presque. Ça fait des années qu'on se connaît, je sais tout de toi ou presque. C'est ce presque qui fait le charme autant qu'il nous désarme.
Presque Boogie de Charlie Couture. Nous sommes toujours avec toi sur le pont avec Christine Béraud aussi.
Bonjour.
Qui prend le soleil depuis tout à l'heure. J'avais une question. On parlait juste avant de cette décision que tu as prise de d'arrêter avec Island, etc. Est-ce que ça t'a redonné du temps aussi pour les autres arts,
oui.
Ou est-ce que tu as toujours réussi à pratiquer tout en même temps, même dans des périodes qui étaient plus intenses du côté de la musique?
Disons que ça a allégé mes horaires, on va dire.
Tes contraintes,
oui.
Mais même à la période des grandes tournées, c'est-à-dire de celles qui démarraient et qui s'achevait 3 mois après, ce qui n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Une tournée, ça s'étale sur 1 an. Avant, ça se compactait sur 2 mois et demi, 3 mois, où on jouait tous les soirs. Il y avait une lassitude qui s'opérait, c'est une fatigue aussi. Mais pourtant, même à cette période-là, j'ai continué à peindre, à dessiner, parce que, encore une fois, ça me permettait de faire le bilan, de me remettre d'aplomb, quoi.
Oui, c'est complémentaire, plus qu'en vase communicant, finalement. Mais c'est quelque chose que...
En fait, c'est pas du tout la même chose. La musique, c'est le seul, franchement, pour en pratiquer quelques-uns, c'est le seul art qui provoque cette trans et ce mise en mouvement du corps pour quiconque aime la musique. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles.
Même pour ceux qui n'aiment pas la musique, je pense que instinctivement, ça nous.
La musique, ça te met en mouvement. Et alors que la peinture, ça va éveiller des choses à l'intérieur de toi. La littérature, ça va te révéler des choses en toi, faire apparaître des mondes, mais ça n'a rien de cet effet de physique que y a dans la musique. Et quand c'est amplifié par la sensation particulière que tu mets en branle une salle entière, ça, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif pour les gens. Quand il y a une interaction entre eux et l'auteur ou l'interprète, mais aussi pour moi. Et dans des périodes, sans revenir sur des périodes physiquement difficiles, ça m'a aidé beaucoup, le fait d'avoir de la scène, même je pense à la période Covid par exemple, que j'ai traversée, j'allais dire grâce au concert que je faisais en duo avec Karima Touman. C'était ça m'a aidé vachement, quoi. Alors je dis pas que ce soit une thérapie systématique, mais tu sais, quand on dit que les gens viennent pour nous dire leur amour, non, en fait pas du tout, ils ont besoin de nous pour se révéler à eux-mêmes. Pourquoi ils veulent que je chante les anciennes chansons? Parce que c'est avec ces chansons-là qu'ils se sont découverts eux-mêmes, et c'est ça qu'ils viennent rechercher. Donc ils viennent pas pour moi, ils viennent pour eux, les gens. Et ils me demandent, comme un apothicaire, de faire des mixtures qui vont leur faire du bien. Ils viennent pas pour me glorifier, ils s'en foutent de moi, au fond, les gens. Alors non, ils m'aiment bien parce que je leur éventuellement procure du plaisir, mais c'est quelque chose d'intrinsèque, de viscéral. Quand on va voir un artiste, c'est parce que un jour on a découvert dans cet artiste-là une part de soi-même.
Tu parles justement des vieilles chansons que les gens ont envie d'entendre. Ça faisait partie des questions que j'avais. Je ne savais pas si j'avais le temps de la poser, mais je vais prendre le temps. Comment on fait avec 26 albums et tellement de chansons, de belles chansons enregistrées, pour faire une setlist qui plaise à la fois à l'artiste, qui lui-même a envie de défendre son dernier album, mais plaise également au public qui justement vient pour entendre « Aime-moi encore »,« L'avion sans aile » et ainsi de suite.
Mais je veux dire, c'est juste une question de nombre.
Ouais.
Une 7 litres traditionnelle, grosso modo, ça fait 18 titres à peu près, plus 2 en rappel, une vingtaine, éventuellement. Plus 2 en rappel, ça fait une vingtaine. Sur la vingtaine, j'en ai 5 obligatoires. Je peux en placer au mieux 7 nouvelles. Et il y en a 10 qui vont être les faces B, c'est-à-dire des morceaux que les gens connaissent, mais qu'ils n'ont pas forcément vu dans cette interprétation-là, ou qui ne sont pas forcément des succès, mais qui connaissent intrinsèquement parce qu'ils font partie des disques. Donc, en fait, je fais évoluer le spectacle sur la base de ce que je viens de te dire. Il y a 5 chansons...
incontournables.
Incontournables, bon, qui se font... Mais ça en laisse quand même 15 autres en variable, si tu veux.
Ouais.
Mais... j'ai essayé de faire des concerts à une époque avec juste des nouveaux titres. C'était pas vraiment une bonne idée. J'ai essayé sur une ou deux tournées de ne pas faire L'avion sans aile. C'était idiot. Et puis petit à petit, quand j'ai entendu que Mick Jagger disait « Qu'est-ce que vous avez retenu de vos 40 ou 50 ans de carrière ?» Il a dit, la première chose qu'il a dit, les fans incontournables ne veulent que les premières chansons. Ah, je veux dire, même si
même si Jagger dit ça,
ça arrive. Alors moi, je peux me permettre.
Bernie, qu'on recevait il y a 15 jours, chanteur de Trust, quand on lui parle d'antisocial, alors on n'a pas parlé d'antisocial, on l'a pas passé, mais quand on lui parle de ça, il dit je souhaite à tout le monde d'avoir une croix comme ça à porter. Est-ce que pour toi, ce genre de succès pourrait être une croix à porter l'avion?
Ah oui, non, ce qui me... Alors là, justement, L'avion sans aile, qui est une chanson que j'assume pleinement, reste malgré tout quelque chose qui me fait vachement mal, parce que j'ai l'impression que pour le public qui veut me dire ça, des gentillesses, il ne réfère qu'à cette chanson-là. Mmh. Et je finis par croire que, bien qu'ayant enregistré 26 albums, le 27e est dans les tuyaux, mmh. Je suis pourtant le chanteur que d'une chanson, chanson. Oui, qui oui. est de l'avion sans
air. Il y a aussi Toy Story, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Oui, un petit peu.
Non, mais je faisais une blague.
Moi, je peux te dire que mon public, lui... Non, ça surprend les gens quand ils découvrent que c'est moi qui ai fait ouais. Toy Story, oui, ouais. mais c'est pas une chanson, elle est pas du tout à mon répertoire, je chante quelques
mais,
fois.
Mais ma fille de 7 ans vous chante.
C'est oui, mais sans ouais. savoir qui est Charles Élie Couture, là. Alors que les gens de l'avion sans ailes, c'est vraiment, ils sont accros sur l'avion sans ailes, et quand dans le spectacle, une fois que j'ai chanté l'avion sans ailes, ça y est, je suis libre. Je veux dire, ouais. et je dis aux gens, je sens que ça y est, vous êtes relax maintenant, détendez-vous. Oh putain, ça m'aurait fait chier qu'il la fasse pas.
Ouais, c'est ça. C'est bon, on l'a eu, on passe à autre chose. En fond sonore, on a Je suis ton ami pour Christine et pour Jeanne.
Ah oui.
Pour Jeanne. Et pour mes enfants qui sont grands.
D'accord.
Je suis ton ami. Ça fait 27 ans que j'entends ça à la maison, Charles Élie.
C'est souvent moi qui rappelle aux gens qui disent ah, je vous connais pas, monsieur Couture, etc. Ouais. Je dis, tu crois que tu me connais pas?
Tu me connais. Mais, tout le monde te connaît.
Mais Toy Story, tu connais?
Ouais.
Eh ben, ton ami, c'est moi. Est-ce que vous avez... Ah oui, c'est moi, ton ami.
On a écouté trois extraits du dernier album Contre toi. J'ai vu dans une interview que tu expliquais que, en fait, ce disque-là, il était fait à partir de chansons de diverses époques.
Ah oui.
Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas un auteur-compositeur qui, en deux ans, fait 15 chansons, les enregistre?
Ah non.
Fait 15 chansons, les enregistre. Toi, c'est des textes qui viennent de loin, en fait. Qui peuvent venir de loin.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est comme des fruits, quoi, si tu veux. Il y en a qui maturent. Il y a quelquefois des chansons nouvelles. Mais je ne considère pas que les derniers textes que j'ai écrits soient forcément plus... percutant que des textes que j'ai écrits il y a 10 ans, 18 ans, 20 ans.
Et alors, pour avoir une idée justement sur Contre toi, c'est le texte le plus ancien, tu as une idée de quand il date? Parce qu'on a l'impression que tout est contemporain, que ça fait un tout en fait.
Tu vois, comme quoi... non, j'avais envie de parler des saisons de l'amour, qui, avec le côté frémissant, excitant des premières rencontres affriolantes. Et puis, en même temps, que ce sentiment d'amour est quelque chose qui évolue avec le temps, et que c'est pas le tout. Tu vois, je m'excuse de la digression, mais j'entendais Boris Cyrulnik évoquer l'anxiété des jeunes d'aujourd'hui due au fait que les couples ne tiennent que 6 à 7 ans, souvent 6, et puis pour leur développement personnel, vont voir ailleurs quand ça casse. Et imagine un enfant qui naît d'une première union merveilleuse, et puis au bout de 5 ans, ça va pas, mais le gamin, il a 5 ans, il n'a pas eu le temps de se construire sur... il a besoin de références, de trucs binaires, bien, mal, gentil, méchant. Et si même ses parents se dissolvent au bout de 6 ans pour aller reconstruire quelque chose d'autre ailleurs, ben lui, sa personnalité va être fragilisée. Ben, c'est un peu toutes ces choses-là que j'avais envie d'évoquer en disant le sentiment d'amour. Il n'est jamais un et unique, mais il est lié à la question de l'existence. Je me reconnais dans toi, qui te reconnaît dans moi, qui me reconnaît dans toi, etc. Avec cet effet miroir assez particulier. Mais les deux miroirs ne restent jamais parallèles pendant longtemps. Mmh. Donc c'est une espèce de course-poursuite pour essayer éventuellement de retrouver le contact avec l'autre miroir, ou pas, si à la première lacune ou chagrin t'abandonne. Mais moi, j'aurais pu me séparer plusieurs fois de ma femme, avec laquelle pourtant je suis toujours aujourd'hui, mais j'ai fait des efforts, elle a fait des efforts, on a redémarré, et puis des fois, après des périodes de respiration, c'est reparti. Et du coup, on a pu construire quelque chose qui fait que quand je me suis retrouvé dans des situations plus difficiles, j'étais incroyablement soulagé d'avoir son amour, très différent de celui qui était celui qui nous liait au début, mais tout aussi intense, et sur lequel je peux m'appuyer encore aujourd'hui quand ça va pas.
Sous la lune diaphane, elle se serre contre lui. Leurs corps se sont choisis. Et rien ne les délie. Il n'a Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui. À travers l'éternel de l'amour infini, il n'a Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui. Bien sûr qu'ils sont inquiets, autant qu'au paradis ils ne trouvent la paix que s'ils sont réunis. Et tous les maux du monde chantent en eux quand ils prient. Ils vivent dans un rêve, hier comme aujourd'hui. Dieu que pour elle. Elle n'a Dieu que pour lui. Et quand ils sont aveugles, ils s'aiment par l'esprit. Quand la brume se lève sur les champs de lumière, ils se cherchent dans le silence de l'autre côté de la rivière.
Dieu que pour elle. Donc c'était le dernier titre de Charlélie Couture pour cette émission. On parlait d'amour. Donc merci beaucoup pour ce,
je vous en prie,
ce moment passé sur notre pont. Et sans transition aucune, Mafalda nous parle à présent des restrictions vestimentaires 2025 sur le Festival de Cannes.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Mais la rue, la nature et le tapis rouge, voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes en mai pour quelques jours encore. ce joli mois de mai avec ses journées qui rallongent, avec ses jours de congé, ses ponts qui permettent d'aller profiter de la nature, car mai nous apporte sa douceur, ses fleurs, ses festivités aussi, comme le Festival de Cannes. Personnellement, je ne me suis jamais vraiment intéressée à ces remises de récompenses, mais j'ai tout de même eu la curiosité d'aller voir la parade, la montée des escaliers sur tapis rouge. J'ai même eu l'occasion de consulter le règlement vestimentaire de 2025, le code à suivre. Eh bien, les baskets et chaussures dites de sport y sont toujours interdites. Et pourtant, dans la rue, on ne voit que ça. Cannes n'est donc pas le reflet du réel. À part les baskets, les tenues transparentes sont proscrites en 2025, en réponse sans doute au fait qu'une actrice américaine, l'an dernier, s'était présentée avec une robe qui laissait voir sa poitrine. Pas de sein en vue, ni de basket. Pas très contraignant, en fait. Et les messieurs, toujours sobrement vêtus de leurs costumes, cravates, nœuds papillons, n'offrent pas beaucoup de variété. On attend avec impatience les costumes à fleurs. Eh bien non, ces costumes sombres, chemises blanches, élémentaires, masculins, souverainement masculins. Les femmes, au contraire, arborent des tenues excentriques, semblent irréelles, en papier glacé. Les femmes se décorent. Est-ce que c'est qu'elles ne se suffiraient pas à elles-mêmes, contrairement à ces messieurs ? Certaines sont diablement extravagantes, comme si elles voulaient attirer tous les regards sur elles. Et dans la nature ? Dans la nature, le paon, le canard, le lion, le coq présentent une fière allure et la masculinité arbore des couleurs chatoyantes, des formes extraordinaires, des excentricités, comme la crinière du lion, la queue du coq, ne parlons pas du paon. Tandis que les femelles sont plutôt fadasses, grisâtres, beigeasses, pas du tout sexy. Comme je le disais, Cannes n'est pas du tout le reflet ni de la rue, ni de la nature. Mais en revanche, ces femmes en exposition, déguisées en fleurs, face à ces hommes pingouins, c'est le reflet de quoi ? Je dois dire pourtant que j'ai remarqué quelques femmes vêtues de manière masculine. Mais en revanche, pas de robe moulante pour ces messieurs. Ça viendra sans doute. La nature fera son chemin. À bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, pour ces beaux jours.
Merci Mafalda et on t'embrasse donc pour ce petit topo sur les tenues du Festival de Cannes. Pour ceux et surtout celles qui souhaiteraient y aller, parce que ce sont surtout les femmes qui sont visées. Vincent Turban, toujours sans transition, tu nous parles de mandril.
Je vais parler d'un groupe qui porte le nom d'un singe cynocéphale d'Afrique de l'Ouest, le Mandrillus sphinx, le Papyrus sphinx. Mais tout le monde le connaît sous le nom de mandril. C'est un des meilleurs groupes de la scène new-yorkaise. Un des meilleurs groupes. Pourtant, il y en a eu, hein, entre le Fatback Band, entre Brass Construction, Creative Funk pour les moins connus. Mais mandril a une place toute particulière dans mon cœur de mélomane. Mandrill, le funk à consonance équatoriale. Sept musiciens panaméens, cubains, portoricains, antillais jouant plus de 66 instruments. Mandrill est au cours des années 70 un des groupes phares de la scène funk new-yorkaise. Considérés comme les précurseurs de la world music grâce à un cocktail explosif d'influences latino, jazz, rock, soul et funk, Mandrill est également le premier groupe à posséder une section cuivre et percussion, contrairement à d'autres formations de la même époque. Formé en 1968 à Bedford-Stuyvesant, New York, autour des frères Carlos, Lou et Rick Doc Wilson, originaires du Panama, Mandrill prend forme lors de répétitions et de bœufs dans le salon de beauté maternelle. Avec le renfort de Claude Coffey Kev au clavier, Charlie Padreau à la batterie, Hugh Bundy Senac à la basse et Omar Mez à la guitare, il génère un buzz à travers Brooklyn et attire rapidement l'attention sur eux. Grâce à la détermination du producteur Burray Fleming, il décroche un contrat avec Polydor à l'automne 1970, entre au studio Electric Lady pour mettre en boîte le premier LP éponyme, très crossover, évoquant Santana, Chicago ou Janis Joplin, période Big Brother and the Holding Company. 1972, Mend Release est d'approche plus facile avec ses gros cartons funky rock tels Happy's Hike ou Giddy Doll. La section rythmique d'origine disparaît au profit du bassiste Fujike et du batteur Neftali Félix Santiago. L'âge d'or du groupe s'ouvre avec Composite Truth, Just Outside of Time, tous deux parus en 1973 et Mandrill Land en 1974. Selon Bro Tableau, le départ d'Omar Meza, parti suite à une révélation mystique, entamer une quête spirituelle avec Sri Chimnoy. Dorénavant, le funk est mis en avant avec les cuivres soufflés forts des frères Wilson, la batterie puissante et syncopée de Santiago, la basse bien grasse de Kay, la guitare tranchante et hurlante de Meza, puis de Dougie Rodriguez son remplaçant, les claviers géniaux de Kofi, le tout parsemé d'un patchwork de percussions qui vous font danser sans demander votre reste. De 1971 à 1975, Manduel joue avec des pointures de la musique latino, Ray Barreto, Tito Puente, Fania All-Star, Rock, Deep Purple, Leon Russell, Funk, James Brown. Des groupes comme Funkadelic ou Earth, Wind & Fire ouvrent leurs concerts. Le groupe War devient un concurrent sérieux dans le registre Latin Funk. Solid en 1975 et Beast from the East en 1976 et We Are One en 1977 sont à mes yeux et à mes oreilles les trois derniers opus témoins des meilleurs efforts de la formation. Mais les changements récurrents de personnel et de label, les tournées, les drogues minent petit à petit la carrière de Manduel. Le succès s'étiole doucement. Manduel s'éclipse progressivement de la scène funk, mais sa musique est plébiscitée par le mouvement rap qui sample à outrance leur patrimoine musical. En 1999, le collectif est de retour, se produisant au New Morning en décembre de la même année et au célèbre festival de Montreux en 2002. Malgré les disparitions de Fujike Solomon, Lou Wilson et Claude Kofi Kev, Mandrill est une valeur sûre et mérite une intronisation Rock'n'Roll Hall of Fame pour l'ensemble de son exceptionnelle carrière.
Bon, merci beaucoup Vincent, le discours de Christine Berry.
Donc, en effet, j'ai quelques deux.
T'avais quelques petites infos
oui,
à nous donner
j'ai
sur ce groupe.
Deux, trois petites informations complémentaires. Alors, le docteur Rick Wilson, donc un des frères Wilson, est un des meilleurs cardiologues de l'État de Californie. Excusez du peu, quand même. La quête spirituelle d'Omar Meza, donc le premier guitariste du groupe, donc il est parti suivre Sri Chimnoy. Donc c'est un gourou en fait qui s'est occupé à peu près à la même époque d'un certain Carlos Santana, figurez-vous.
Rien que ça.
Incroyable mais vrai. Et j'ajoute aussi que Mandrill, naturellement, c'est un groupe qui possédait effectivement une section cuivre et une section percussion, contrairement à d'autres formations de la même époque. Je prends quelques exemples. Santana possédait des percussions, mais pas de cuivre. Tower of Power possédait une belle section de cuivre, mais pas de percussion. James Brown aussi. Mandrill, c'est bien le groupe à avoir les deux en même temps. Et c'était eux les têtes d'affiche, je tiens à le signaler. Parce que Earth, Wind & Fire et Funkadelic ouvraient pour eux, c'était eux les têtes d'affiche. Et ils méritent une intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame. Et faites-les venir en France. Ça, c'est un sacré bon groupe. Allez voir en concert.
Thank you.
comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
À Gallo, donc du groupe Mandrill.
À Gallo.
Sur avec l'accent
Gallo. Sur l'album Composite Truth en 1973.
Merci beaucoup.
Si le rire est le propre de l'homme, personnellement j'ajouterais de la femme, pourquoi pas, le combat est le propre de Christine Béraud. Telle une Avenger possédant bien plus de pouvoir que les personnages issus de Pulp America, Christine se bat avec toutes les armes qu'elle a à portée de main, la plus puissante étant un stylo dont elle use sur scène, dans ses livres, à la radio, à la télé ou au micro de son podcast Gamberge, pour fustiger avec un sourire élégant tous ces gens merveilleux que l'on pourrait appeler affectueusement les connards. On parlera des connards plus tard.
Je m'en prends pas qu'à eux, il y a aussi quelques connasses. Oui. Parce que après la sortie de mon bouquin, il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté leurs histoires de connasses. Et enfin voilà, mais bon, j'ai un point de vue hétérosexuel. Alors, voilà, désolée.
On parlera du livre et des connards tout à l'heure. Tu sors d'une tournée de plusieurs années, de 3 ans d'exploitation d'un spectacle qui s'appelle
oui,
Trop.
Et Trop a tourné pendant 3 ans et demi. Et j'ai eu la chance de le capter à la Nouvelle Ève en octobre dernier. Donc il est passé à la télé en janvier, je crois.
Sur Teva,
et il est disponible sur m6.fr. Ouais. Donc là, j'essaye d'en écrire un nouveau, mais j'ai d'autres priorités. Là, j'ai mon prochain livre qui sort en octobre, je dois le rendre la semaine prochaine, et je suis pas en avance. J'espère que mon éditeur écoute pas ça. voilà, mais oui, j'écris quand j'ai un peu de temps. Là, j'écris un spectacle sur le paranormal. Ce sera le thème de mon prochain spectacle. Donc on sort complètement des connards et de ouais, parce que ça m'intéresse, parce que peut-être je me rapproche tout doucement.
En même temps,
voilà, c'est vrai, c'est un très beau sujet. Je te le vole et tu n'auras pas de droit d'auteur. parce que j'ai rencontré des médiums, j'ai vécu moi-même des expériences un peu cheloues, et du coup je me suis dit, ah, j'ai envie d'écrire là-dessus parce que je pense que ça intéresse tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Charles Lely, vous avez déjà vu des fantômes?
J'ai souvent discuté
avec
l'invisible.
Bah, vous êtes ouvert d'esprit sur ce sujet. Non, mais c'est vrai, j'ai rencontré le médium il n'y a pas très longtemps, c'est assez fou, j'ai envie de parler de ça.
Voilà. Tu as reçu dans ton podcast des astrologues, si je...
Alors oui, alors, je ne crois pas forcément à l'astrologie, mais j'ai reçu Jean-Yves Espier, qui est la star des astrologues, et qui est le nouvel astrologue de Elle, qui a des millions de followers, et du coup, je voulais le rencontrer pour voir.
Une référence.
Pour comprendre. Et c'est vrai qu'il est complètement habité par son sujet. Et je recommande cet épisode parce que même si on n'y croit pas, il est convaincant. Étrangement. Donc, voilà.
C'est la force des gourous, ça.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est bizarre, depuis que je m'intéresse au paranormal, il m'arrive plein de trucs. Et on a reçu une médium sur le plateau de Teva. Oui. Et en fait, elle est venue vers moi et elle m'a dit, il faut que je parle à quelqu'un qui a un bijou qui brille. Et j'avais cette bague de ma grand-mère. Et en fait, elle m'a dit, votre grand-mère a plein de choses à vous dire. Et elle m'a dit plein de trucs qui étaient vrais. J'étais vraiment estomaquée. J'ai pas d'explication. On m'a dit, oui, c'est du mentalisme, elle a lit dans tes yeux et que ça. Mais elle m'a dit des choses qu'elle ne pouvait pas trouver sur Internet. Donc, je suis en train d'écrire là-dessus, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Qu'est-ce que c'est une femme qui est trop?
Ah là, c'est le truc qu'on m'a le plus dit de toute ma vie. Quand j'étais petite, j'étais trop turbulente, j'avais trop d'imagination, je prenais trop de place, je faisais trop d'histoires. Et en fait, j'ai vécu souvent, longtemps ça comme un fardeau. Avant de comprendre, ça m'a pris des années, que c'était mon plus bel atout, parce que c'est justement les gens qui sont trop, et c'est pas Charles Lely qui va me contredire, qui ont des choses à dire, qui sont justement, qui vont... Moi, je fais toujours la comparaison avec la fourmilière. Vous savez, dans les fourmilières, chacun a un rôle. Il y a la pâtisseuse, il y a l'éclaireuse. Et moi, je pense que chez les humains, il y a les fous, en fait. Et en fait, il faut qu'on fasse notre job de fou, en fait. Alors oui, j'ai pu énerver, j'ai pu agacer. Mais c'est mon... En science, on appelle ça l'idiosyncrasie. C'est-à-dire, c'est notre nature profonde. C'est ma nature profonde d'être trop, et il faut l'assumer. Parce que quand je l'ai tout fait, j'étais profondément malheureuse, en vérité.
Mais tu étais trop quoi? Trop sensible? Trop généreuse? Trop
généreuse, ça sûrement pas, parce que je suis bretonne. Non, je... trop sensible, oui. Trop sensible, ça c'est sûr, mais ça c'est beaucoup de gens, je pense. Mais trop, c'est difficile, mais trop expansif, ça c'est sûr. J'ai besoin d'exprimer quand je vis quelque chose, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de l'analyser, j'ai besoin de le théoriser. Ce que je fais avec mon podcast Gamberge. Et oui, je pense que surtout je me pose trop de questions. Ça, vraiment, c'est ma particularité. Et je pense que ça se sent dans mon travail.
Et cette phrase, tu es trop, 3 petits points qui revient souvent, parce que dans ton spectacle, tu parles beaucoup aussi des connards, des hommes en général qui ne sont pas tous des connards. C'est une phrase que tu as entendue plus de la part d'hommes que de femmes.
Ah oui, ouais. D'ailleurs, je suis pas la seule à avoir théorisé trop. Je commence mon spectacle avec un extrait du livre de Mona Chollet qui a aussi dénoncé ce.
L'amour.
Ouais, tout à fait. Elle dit en fait les femmes sont toujours trop en fait. Et oui, c'est venu des hommes. Quand j'ai commencé en télé, il y a longtemps, j'ai eu la chance de travailler pour des rédacs qui me laissaient beaucoup de place, notamment quand j'étais à Canal+. Mais j'ai travaillé pour une émission pour France 3 dont je tairai le nom, qui était très famille, qui était très bien pensant, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'ils m'ont embauchée. Après, pour me canaliser, pour me dire ah non, pas comme ci, pas comme ça, alors que j'avais il y avait un autre humoriste qui s'appelle Tanguy Pastureau que je salue. Alors lui, par contre, on lui disait ah non, sois plus.
Vas-y.
En fait, alors que moi, j'étais donc, et ça, je l'ai rencontré beaucoup aussi quand j'étais chroniqueuse à Télématin. Je sais qu'on m'a dit non, évite d'aller sur trop le politique, le machin, le truc. Alors qu'en face, il y avait Alex Vizorek qui ouvrait grand débat. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Et ce sera d'ailleurs un des thèmes de mon prochain livre qui sort donc en octobre et qui va s'appeler Le jour où j'ai arrêté de m'excuser, parce qu'en fait, j'ai un l'impression d'avoir passé trois quarts de ma carrière à m'excuser au profit de ceux à qui on ne demandait jamais de compte en fait.
Voilà. Et c'est justement suite à une vanne un peu trop que tu es partie d'Europe 1.
Absolument, oui. J'ai été chroniqueuse pendant 7 ans sur Europe 1. Donc j'ai commencé avec Nikos Aliagas, après Andrew Manoff. On avait d'ailleurs reçu Charlie Couture. Et après, j'étais dans la matinale. J'étais chez Romanoff et en même temps, j'étais dans la matinale du week-end. Donc c'était vraiment, vous connaissez les matinales, donc vraiment très chargée politiquement. Et donc j'étais avec Pierre de Villeneau, que j'embrasse s'il ne m'en veut plus.
Il n'est pas facile.
Non, c'est que c'est un gars chouette. Mais non, ils m'ont dit il ne faut pas faire de blagues sur Zemmour hein, parce qu'il y a un journaliste qui s'en est pris à Zemmour. Il a été convoqué par la direction, interdit de faire des blagues sur Zemmour. Et là j'ai dit non en fait, là je démissionne en fait, parce que là je pourrais pas me regarder dans la glace en fait. Si je dois taper sur tout le monde sauf sur quelqu'un qui est problématique, on va pas être copains. Et donc je suis partie et j'ai eu le malheur ou je sais pas, la bonne idée, je saurais jamais, de publier le SMS où on me demandait concrètement de pas faire de blagues sur Zemmour. Et j'avais pas compris. Vraiment de bonne foi, j'avais pas compris dans quel contexte je balançais ce SMS. C'est-à-dire qu'en fait, la rédaction est en train de changer. Il venait de recruter un journaliste de Valeurs Actuelles pour prendre les rênes. Et en fait, je pense que les médias de gauche n'attendaient que cette preuve pour déclarer
dire,
la guerre.
Bascule.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été très médiatisé. Moi, j'ai pensé à un moment donné que c'était la fin de ma carrière. Je me suis dit, voilà, s'il faut un procès, je me suis renseignée. Hein. J'ai dévoilé un SMS pro ou perso. Ouais. Ils pouvaient vraiment me faire payer ça très cher. Et ils ont choisi de ne pas le faire. Et merci à eux. Et voilà. Et puis, c'était le début d'une nouvelle vie. Voilà.
Donc tu as été victime de la censure, alors?
Oui, c'est ça. Et après, ce qui est cocasse, c'est qu'après, je suis allée sur Télématin, où là, on m'a dit d'arrêter de faire des blagues sur Darmanin. Donc, en fait, c'est sans fin, en fait. Ça ne s'arrête jamais.
C'est
voilà.
ça. Et ben, ce qui ne s'arrête jamais non plus, c'est la musique sur Radio Libertaire. On écoute les Monkees.
Ah oui.
Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. The way it seemed.
saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, down in my mind. Said I'm a believer, yeah, 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 yeah. Said I'm a believer, I'm a believer.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
The Monkees, donc, I'm a believer, et nous sommes avec Christine.
J'ai adoré la conversation qu'on a eue sur les Monkees avec votre chroniqueur musique, hein, parce qu'il s'y connaît. Hein. C'est rare les gens qui connaissent l'histoire des Monkees.
Il sait tout. Vincent Turban, c'est tout.
C'est ça. On peut pas indépassable. Personne ne sait plus de choses sur la musique que Vincent Turban.
Est-ce que Charlie, toi, t'as déjà été confronté à la censure? Est-ce que c'était arrivé?
J'ai bien le con. Et disons qu'on vit une société de normalisation,
ouais.
Donc ce qui fait que les gens, à la manière d'un premier ministre qui se dit être au centre de tout, les gens veulent ramener tout au centre, ce qui est une connerie, ouais. À mon avis, extrêmement industrielle, parce que finalement le seul but c'est de plaire au plus grand nombre, ouais. mais ça devient le fourre-tout. C'est comme si on disait la vérité de toutes les couleurs, c'est de les mélanger toutes ensemble, ben ça donne un gris. Et le problème des censures, entre guillemets, c'est ça, c'est-à-dire on va établir des normes, on va établir des principes, des prétextes, des considérés que, et ça il faut pas le dire, ça il faut pas le faire, alors que les gens sont suffisamment adultes pour faire la différence entre le salé et le sucré, entre les épicé et le pas épicé.
Oui, mais je veux dire, il n'y a pas une ville.
Si, clairement, moi j'ai été interdit. Ouais. Mais c'est pour dire à quel point c'est con. Au moment de 911, ils avaient interdit l'avion sans aile parce qu'il ne fallait pas parler d'avion.
Ouais,
et donc ça avait été interdit d'antenne.
Putain, de censure, vraiment, de merde.
La connerie.
ça,
c'est typique.
Ouais.
Mais il n'y avait pas que moi. L'hôtesse de l'air de Dutronc
était
interdite. C'est ça la censure. Quand on utilise la morale pour faire le bien, et ben souvent ça tourne en autre boudin.
Christine, moi je t'ai connue il y a quelques années au moment de tes débuts. Ouais. Est-ce que tu te considérais comment à l'époque? Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ton dernier spectacle Trop, tu adoptes tous les standards du stand-up. Micro à la main, je prends à partie les spectateurs, je raconte ma vie. Enfin, c'est toi qui parles et non pas des personnages. Ouais. C'est un spectacle qui se regarde dans la durée et on ne peut pas le saucissonner comme on peut faire avec un spectacle à partir de sketch. Donc, est-ce que toi, tu te définis comment et comment est-ce que tu as vu ton évolution depuis toutes ces années que je te connais et que tu pratiques l'humour?
Je pense qu'on fait ce qui nous influence un petit peu. Moi, quand j'ai commencé, tu sais, rappelle-toi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne consommait pas l'humour comme maintenant. Moi, j'ai grandi avec les VHS de Élie Kaku, de Muriel Robin... Et du coup, je me disais, l'humour, ça doit être ça. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai commencé effectivement avec des sketchs de 5 minutes, très calibrés, très scolaires, etc. Parce que c'était ce qu'on m'avait dit de faire. Et en fait, je me sentais un peu étroite. Hein. Si tu te rappelles de mon travail à l'époque, ça débordait un peu. Et en fait, j'ai rencontré le stand-up américain, où j'ai vu ce que c'était. Hein, parce qu'à la base, le stand-up américain, c'est Lenny Bruce qui monte sur scène pour divertir les gens avant qu'arrive le groupe de jazz, en fait. Et en fait, il parlait de sujets d'actualité. Et aux États-Unis, les humoristes sont considérés comme des philosophes aussi. Et je trouvais que c'était frais, je trouvais que c'était vraiment une main tendue vers un nouveau monde où on a le droit de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, la manière qu'on veut. Et effectivement, le fait de casser le quatrième mur, de parler avec le public, de créer un moment et non pas de réincarner le DVD qu'ils ont acheté, en fait, ça me plaisait beaucoup que chaque soir soit différent, de pouvoir prendre toutes les portes, de leur parler à la fois fois de ma vie, mais à la fois de l'actualité, à la fois de même. Et vraiment, j'ai découvert une humoriste américaine à cette époque-là, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, qui s'appelle Sarah Silverman, que j'aime énormément. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis après, l'histoire m'a donné plus ou moins raison. Je parle pas de moi, mais je parle de l'évolution de l'humour en général. C'est-à-dire que maintenant, l'humour, c'est ça. Et peut-être c'est un peu tombé dans les travers, parce que maintenant, on a des humoristes comme Redouane Bougueraba, que j'aime beaucoup, mais qui fait que de l'improvisation avec le premier rang. Et je trouve que c'est pas le même métier forcément. Donc j'ai essayé avec mon spectacle, et j'espère que ça se sent quand même d'avoir quelque chose d'écrit. Et ensuite, il y a des portes ouvertes où j'échange effectivement avec le public.
Oui, c'est vrai que
c'est comme en musique, à une période, le free jazz, c'était d'arriver sur scène avec juste l'envie de jouer coûte que coûte. Et on se retrouve à la sortie, il n'y avait jamais deux concerts identiques. Simplement, c'est une mode, entre guillemets. Et je suis sûr que dans l'humour, effectivement, il y a ceux qui ont le talent de profiter de l'improvisation pour en faire quelque chose. Puis il y en a d'autres qui tombent dans les clichés, mais qui sont très différents quand on passe par l'écrit. Quoi.
En fait, je me suis rendu compte que le premier contact que j'ai eu avec le stand-up, c'est finalement en regardant un film de Scorsese qui est Raging Bull, où à la fin on voit De Niro qui joue Jack LaMotta et qui se retrouve dans un... Il finit sa carrière lamentablement à raconter des blagues au coin d'un bar dans une espèce de club de blues, de jazz. Et en fait c'est une espèce de... C'est ça l'invention aussi du stand-up, c'est exactement ça. C'est, je raconte des blagues pendant que les gars sont en train de s'accorder ou de monter en scène entre deux gigs aux États-Unis.
C'est plus que des blagues, c'est aussi un point de vue sur le monde. Enfin, Lenny Bruce finissait régulièrement ses soirées de stand-up en prison. Hein. D'ailleurs, sa mort a été instrumentalisée par les... Oui, parce qu'après, il est devenu... il a assez bien incarné l'Amérique dépravée. Après, ils ont instrumentalisé sa mort. Enfin, c'est horrible la façon dont il a terminé. Comme par hasard, on a des photos de la scène où il est mort comme un junkie, soi-disant. C'était pour montrer aux Américains, regardez ce qui se passe quand vous avez des idées, quand vous avez un regard critique, en fait, finalement. C'est tragique.
Est-ce que le stand-up offre plus de liberté créatrice?
Alors je sais qu'aujourd'hui plus personne n'instrumentalisera ma mort, si c'est la question. Il y a une liberté.
Non, mais entre le stand-up et le sketch.
Moi, je fais même plus la différence. Moi, quand je vois un humoriste, je vais même pas me demander ce qu'il fait du stand-up ou du sketch. La question, c'est est-ce qu'il me fait rire, est-ce que je passe un bon moment.
Ce que je veux dire, c'est quand t'es sur scène, le fait d'avoir cette liberté d'improvisation te permet d'aller plus loin dans ta réflexion, de nourrir davantage ton propos. Alors que le sketch, il est en général, il est très, c'est comme une chanson sur laquelle on n'aurait pas d'improvisation. Alors que là, dans le stand-up, t'as une base, et comme l'a dit Charles Lely, peut-être que tu peux, par ce que t'entends dans la salle, par une réflexion du public, enrichir ou développer un propos auquel t'aurais peut-être pas pensé.
Oui, ça arrive, c'est ce que j'appelle l'inspiration d'adrénaline. C'est-à-dire quand on est sur scène, le cerveau il est en alerte.
Ouais.
Donc parce qu'il est un peu en mode survie. Parce qu'on sait pas, finalement, quand on joue devant 100 personnes, on est en danger quelque part, on est en danger social.
Ouais.
Donc effectivement, dès qu'il y a quelqu'un qui intervient alors que c'est pas prévu, le cerveau il se dit oh là là, il faut qu'on s'en sorte, et il va aller chercher des ressources que tu pensais même pas avoir, et tu vas avoir la vanne du siècle à ce moment. Puis des fois pas.
Ouais.
Mais quand même, j'essaye quand je monte sur scène d'avoir un sketch quand même qui fonctionne en termes d'humour et puis surtout en termes de fond. C'est
bien
important.
Sûr.
Moi, les deux questions que je me pose quand j'écris, c'est un, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Deux, comment je peux le dire pour que ce soit drôle? L'humour vient en deuxième, parce que si j'essaie d'être drôle sans avoir rien à dire, enfin, je veux dire, c'est inintéressant pour tout le monde, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas le genre d'humour.
Mais c'est moins drôle.
Bah, je trouve.
Du coup, c'est moins drôle.
C'est moins drôle quand il n'y a pas du fond derrière et qu'on n'a pas un double...
Et à théoriser l'humour, tu as fini par en écrire un livre ?
Bah oui, en fait, quand j'ai commencé comme autrice à la télévision, j'étais dans un pôle auteur, tenez-vous bien, avec Kian Kojandi, l'auteur
un
de... Un pôle auteur, c'est-à-dire on écrivait des blagues pour la télévision, pour France 4 à l'époque. Ouais. Et j'étais voisin de bureau de Kian Kojandi, donc bref, qui est un homme extrêmement brillant. Ouais. Et je le voyais bosser, et je me disais, mais je serais incapable d'avoir autant de talent que lui, de travailler comme lui. Puis je me suis mise à les observer tous, et je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs de blagues qui revenaient, etc. Donc j'ai commencé à noter, à faire la liste, et j'ai appris qu'il y avait un type du nom de Henri Bergson qui, en 1899, avait écrit Le Rire, avait lui-même commencé à lister les... Et donc je suis partie de ses travaux, j'ai mélangé avec les miens, et donc j'ai créé une méthode. Et à l'époque, j'enseignais à l'école du One Man Show de Paris, et donc j'ai testé avec mes élèves, j'ai vu que ça prenait, et finalement, j'ai écrit la méthode et puis j'ai envoyé un éditeur qui m'a dit oui tout de suite et donc après bah, j'ai pu développer, mais la méthode a beaucoup évolué parce que moi j'apprends tout le temps, donc maintenant je dois être à la version je pense 8-9, ce qui fait que mon éditeur de l'époque Erol il peut pas suivre, donc je l'auto-édite pour mes formations. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant quoi. Et c'est drôle parce que s'il y a quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, c'est même pas Lenny Bruce, c'est vraiment Henri Bergson quoi.
Henri Bergson, Henri, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu.
On est à côté du Père Lachaise par hasard, il serait pas là-bas.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée.
Le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Respire encore de Clara Luciani qu'on vient d'entendre. Chez nous, c'est une chanson, un débat. On a eu une émanquise avant. Génial. Et ce sont des titres que tu as choisis, Christine. Je le précise, c'est ta playlist perso. Voilà.
Ouais, j'aime bien les chansons de survivantes. Là, elle explique, elle réapprend à faire la fête. On devine que c'est après une période compliquée, comme les Monkees d'ailleurs maintenant à Me Believe. J'adore parce que je trouve que ce sentiment de renaissance, de reprendre les rênes de sa vie. D'ailleurs, dans les films, j'adore. C'est ce que je préfère au monde, je crois.
Tu as choisi pas mal de titres post-dépression.
Oui, sans vouloir dire que je sors moi-même d'une dépression. Voilà, enfin, pas en ce moment, en tout cas. Je trouve que, alors pour ceux autour de cette table, je ne vous le souhaite pas, mais qui ont déjà fait une dépression, ce matin où vous vous réveillez et vous réalisez que vous êtes guéri, c'est la plus belle sensation au monde. Et d'ailleurs, la chanson de Stéphane Richard que j'ai choisie pour terminer l'émission, c'est exactement ça. Donc, quand on se réveille, tu fais « Ah, mais je ne suis plus malade. Ouais. Sans médicaments, sans rien, sans béquilles, ça y est, je suis guéri. » Et c'est merveilleux, je le souhaite à tous les gens qui vont mal.
Moi déjà quand je sors d'un rhume, je me sens comme ça. Hein,
moi j'ai dit qu'on vit tous sous pression. impression, compression, expression, dépression. Et après ça recommence.
Oui, c'est vrai.
Pression,
c'est les montagnes
impression,
russes, exactement.
Compression, expression. Soulager et dépression parce que tout d'un coup, et puis ça recommence.
Tu ne sors pas d'une dépression.
Non, pas en ce moment.
Mais tu as traversé quand même des périodes difficiles. Je pense notamment à une chose, on parlait de censure au travail. Il y a aussi une censure du public, des réseaux, on va dire des gens lambda. Tu racontes dans ton spectacle que tu as subi beaucoup de messages d'insultes.
Oui.
Énormément, en vague, comme ça.
C'est une communauté, en fait. J'ai une communauté qui me cyberharcèle depuis la sortie de mon dernier livre. C'est les masculinistes. Oui, oui, c'est les mêmes. Il y a des forums sur moi.
Stéphane.
Oui, il est fan. Non, il y a des forums sur moi, avec des photomontages, avec ma tête. Je reçois régulièrement des menaces de mort. J'ai encore porté plainte il y a quelques semaines parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et j'ai trouvé l'adresse de l'école de ta fille. Donc, et tout ça, pourquoi ? Tout simplement parce que je dis aux hommes d'arrêter d'agresser les femmes. Et c'est uniquement là-dessus, je dis rien d'autre. Jeanne, tu connais mon travail. En fait, à chaque fois que je dis ou je fais quelque chose pour dire en fait arrêtez d'agresser les femmes, je m'en prends plein la gueule. En fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. J'ai même pas d'opinion politique tranchée. J'ai pas pris parti pour des conflits politiques. Enfin voilà, j'ai rien. J'ai pas fait comme on dit une blanche garde. Enfin, j'en suis restée à un combat pour que les violences faites aux femmes s'arrêtent. Et je m'en prends plein la gueule. Et je me dis bah c'est que j'ai raison. Puis c'est que je vais continuer surtout. Bon. Après, ma limite, c'est quand on décide de faire du mal à ma fille, là, oui, je suis pas très bien, mais bon.
Est-ce que c'est systématique, la poursuite en justice, maintenant ?
En fait, quand j'en vois un qui pourrait passer à l'acte, ouais. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup, souvent, c'est des ados qui m'écrivent, ou c'est des gens qui sont pas très intelligents. Mais quand il y en a un, je vois qu'il est motivé. Je vois qu'il y en a un, par exemple, il avait créé plein de comptes Instagram différents pour m'insulter plusieurs fois la même journée. Bah oui, là j'ai porté plainte parce que c'était très. Il y en a un qui a trouvé mon adresse mail. Enfin, c'est des fois ça fait pas. Mais en ce moment ça va. Écouter. Donc j'espère que ça va pas relancer cette émission. Je sais pas par qui vous êtes écouté, mais en ce moment là ça s'est un petit peu calmé. Donc
il y a assez de petite parenthèse comme ça actuelle. Mais il y a assez de répression. Est-ce que tu as l'impression que quand tu portes plainte, quand tu dénonces, ça change?
Oui, je sens que ça les calme parce qu'ils se disent ah elle a pas peur. Et puis surtout j'ai tellement ouvert ma gueule, j'ai tellement montré que j'en avais plus rien à foutre, qu'ils savent que j'ai quelque part j'ai plus rien à perdre quoi. Je m'en fous de pas être aimée, je m'en fous de perdre des followers, je m'en fous de plus avoir de travail. Enfin vraiment, ça, je sais que je m'en sortirai toujours d'une façon ou d'une autre. Et ça, je pense que comment expliquer, ça les retient parce qu'il y a tellement d'artistes qui ont peur justement de faire des bad buzz, alors que moi j'en ai tellement fait que vraiment ça me glisse dessus. Et tant que je sais que je suis dans mon bon droit, je pense que si je faisais des bad buzz avec un propos avec lequel je suis pas trop sûre, je serais pas bien. Alors que là, je persiste et je signe. Chaque vidéo, chaque livre que j'ai écrit, chaque sketch que je fais, je l'assume à 100%. Donc attaquez-moi et faisons ensemble avancer le débat. Mais arrêtez de me menacer de mort par contre, parce que c'est la police en a marre. Voilà.
Ouais. Et toi aussi.
J'ai ma petite carte de fidélité. D'ailleurs, je salue le commissaire de Montreuil qui m'accueille toujours avec beaucoup de bienveillance.
C'est quand même de la folie qu'on puisse publier l'adresse de votre fille.
Ils l'ont pas publié, mais ils m'ont dit non, c'est pire que ça. Ils ont dit j'ai trouvé l'adresse de l'école de ta fille. Donc sous-entendu, j'y serai quoi. Sous-entendu, c'est moi qui vais la chercher demain. Enfin, c'est extrêmement flippant. Il a fallu prévenir la directrice. Enfin, ça a été tout un micmac. Donc les autres parents d'élèves sont au courant. Donc je me dis ok, je mets tout le monde dans la merde. C'est à cause de moi. Enfin, c'est compliqué.
En 2023, je crois, t'as décidé d'arrêter ta tournée.
Oui, comment tu sais ? Attends, 2023, qu'est-ce que j'ai fait en 2023 ?
Je le sais parce que j'écoute ton podcast.
J'ai fait tellement
et que c'est toi qui le dis.
Oui, donc, je pense que j'étais un peu...
C'est pas Stéphane qui m'en parle. Hein,
c'est vrai. Dans ton podcast, je me confie beaucoup trop dans
Tu es arrivé à la gare de Lyon, tu avais mal à la jambe, tu avais mal au dos, tu n'es pas monté dans le train, tu as appelé ta productrice, elle t'a pourri.
Ouais.
Évidemment, c'est
et j'ai dit, ah bah ça Charlie, il doit connaître ce moment où t'as pas envie de monter sur scène parce que peut-être t'as fait un peu trop de concessions artistiques et tu sais plus qui tu es, j'étais pas contente du spectacle à ce moment-là.
Ouais.
Donc j'ai arrêté un an pour le réécrire entièrement et j'ai bien fait. Parce que voilà, au final, ma productrice de l'époque que j'embrasse, Valentine, elle a bien vu que c'était un mal pour un bien au final. Mais oui, c'était dur parce que j'étais en train justement de m'adapter à un public qui était peut-être pas le mien, ce que j'avais fait pendant des années. J'ai fait 4 ans de Jamel Comedy Club. Pendant 4 ans de Jamel Comedy Club, je faisais des blagues vraiment pour le public du Jamel Comedy Club. Je savais même plus qui j'étais moi, mais parce que c'est bien d'être au Jamel Comedy Club, tu comprends. Donc essaye de pas trop. Du coup, je m'adaptais. Et puis au final, je savais plus qui j'étais. Mais il faut s'écouter en fait dans ce métier, parce qu'on fait trop de compromis pour. pour passer à la télé, en fait, c'est pour être aimé.
C'est justement après ces 5-7 ans chez Highland et depuis les années 80 que tu as vécu.
Je croyais entendre une réflexion.
Une résonance.
Avec quelque chose que j'ai vécu, mais ouais. Moi, c'était il y a quand même longtemps depuis.
C'est le même ressenti. C'est un moment de dire je préfère arrêter plutôt que de me compromettre.
C'est plus en douceur que ça, mais il y a effectivement un moment où tu as besoin de prendre du recul par rapport à l'importance que prend l'image publique par rapport à ton image privée, enfin ce que tu connais de toi quand tu te vois dans la glace. Mais j'en reviens pas de ce que tu évoques, comment on peut s'énerver de l'idée de dire il faut que les violences familiale cesse. En quoi est-ce que quelqu'un peut dire si, il faut que ça continue?
Et parce que ce sont des agresseurs, en fait. C'est un discours d'agresseurs, ils ne sont pas très nombreux.
La plupart des agresseurs, ils sont souvent dans des attitudes qui sont alcoolisées ou droguées.
Non, je suis pas d'accord. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'agresseurs vraiment.
Spontanés.
Non, mais. Ah bon. Là, tu t'écris un peu, mais non, mais il y a. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont de la violence en eux, même sans alcool et même sans drogue.
C'est surtout que depuis là, les masculinistes, c'est des hommes très jeunes, sont très sobres et qui s'expriment sur des réseaux. Sur TikTok, il y en a beaucoup et qui disent quand même des choses où ils revendiquent.
J'ai vu le feuilleton anglais.
Adolescence.
Ouais, ouais.
C'est comme Mark Zuckerberg qui se permet de dire notre société manque de violence. Cette phrase est quand même improbable, mais elle a été prononcée. Donc.
Bon,
sur ce,
on respire.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is in. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in time. There's a star. Blow it, 'cause he knows it.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Starman, David Bowie.
Ça fait du bien.
Très bien, ça fait vachement
ça
bien.
Ça fait du bien.
Très agréable. En mer, ouais. Comme ça, en plein soleil, un petit David Bowie, ça fait du bien.
On approche de New York en plus. Et si on j'ai bien compris.
Au loin, au loin.
Dire, mais dis donc, c'est
parfait. Mais New York n'est plus ce qu'il était. Il faut être honnête. Hein. En ce moment, en tout cas, c'est terrible.
Enfin, ouais. Marseille, New York, en deux heures, ça reste un exploit quand même.
En termes de bilan carbone, on n'est pas très bien. Mais bon, je veux pas.
Ah, mais c'est un bateau à rame.
Ah, bah voilà.
À énergie solaire.
Merci Jack d'ailleurs de ramener depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'on l'entend pas. Il rame.
On ne parle pas rame.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Christine Bérou, donc tu es avec nous. Combien de vies tu as eu, toi? Parce qu'on parlait avant.
Oh là là.
Je suis curieuse maintenant qu'on a découpé les étapes en, de la vie en petite vie.
C'est intéressant. Écoute, je pense que. C'est, alors vraiment, je pense que j'en ai eu 4. J'ai eu l'insouciance jusqu'à l'adolescence. Où, après, j'ai, voilà. Et puis ensuite, il y a eu une vie que je croyais devoir mener, me marier, avoir des enfants, etc. Après, il y a eu le pétage de plomb où j'ai réalisé que j'étais faite pour la scène. Donc là, j'avais 25 ans. Et après, il y a eu ce passage où j'ai fait de la scène pour des mauvaises raisons, pour être aimée, pour être validée, pour avoir des rôles. Pour, et puis après, il y a eu ma vie de maintenant où je fais mon métier pour les bonnes raisons et je sais peut-être mieux qui je suis, en fait. Voilà.
Et est-ce que c'est le jour où tu as rencontré le connard de trop que tu as voulu arrêter de t'excuser?
Ouais. Bah oui, ouais ouais. En plus, c'était effectivement, c'est tombé en même temps que quand on m'a demandé sur Télématin d'arrêter de faire des blagues sur Darmanin. Et là, j'en ai eu marre d'être une gentille petite fille, parce que ce connard, vraiment, j'étais prête à faire des compromis, à aimer un homme, etc. Et il m'a vraiment traité comme la dernière des merdes. Et je dis ah oui, donc en fait, vous en avez rien à foutre en fait. Bon bah maintenant, je vais mener la vie. J'ai envie de mener de la façon dont j'ai envie de la mener. Et j'ai fait un livre parce que. Beaucoup trop d'amis à moi me témoignaient les violences qu'elles subissaient et qui étaient normalisées. Ah mais c'est les hommes, ils sont comme ça, et tout ça. Et je dis bah non en fait. Donc j'ai écrit, c'est un livre qui est drôle mais qui est aussi une étude sociologique. Voilà, je parle vraiment de la façon dont on se consomme maintenant avec les applis de rencontres, de certains créateurs de contenu aussi qui sont un peu problématiques. Voilà, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu passer un TikTok où un homme disait non mais les femmes elles aiment qu'on leur crie dessus. Enfin je veux dire on est en 2025. Et donc, j'ai voulu écrire un livre là-dessus et ça m'a...
Je me permets de recommander, je ne sais pas si tu l'as lu, le livre de Judith Duportail.
Non.
Non, je ne me rappelle plus le titre. Je vais le retrouver dans un instant sur son expérience Tinder, justement.
Ah, mais c'est génial, je vais chercher des livres à lire cet été. Bah, super, tu vas voilà.
Petite parenthèse.
Bah non,
sinon, il y a aussi L'éloge de l'amour d'Alain Badiou qui est très chouette. Il parle de mythique, c'est un peu plus... Voilà, on est pas, on
donc,
est...
je ne suis pas la seule à avoir...
Non, beaucoup de philosophes se sont intéressés, ou des sociologues, à ce qui se passe précisément dans la relation humaine. Par les applis de rencontre.
Mmh. Est-ce que tu continues de rencontrer des connards?
Non, parce que j'ai arrêté ce connard. Ça a été, ça a été le dernier, en fait.
C'est ton type d'homme selon ta psy, si on en croit tout.
Oui, c'est ça. Non, mais je ne peux plus depuis. Donc là, c'était en 2022, et depuis, je suis incapable de faire confiance à un homme. Enfin, il m'a tellement abîmée. Que c'est fini. Je ne peux plus. J'ai fait un peu. Toi qui écoutes mon podcast d'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus. En fait, voilà, mais c'est pas du tout une souffrance. Je constate. Voilà, c'est comme quand vous mangez un truc, ça vous rend malade. Mmh. Vous constatez qu'après, vous n'avez plus envie de cet aliment. Bah, moi, c'est pareil. Alors, j'ai des amis garçons. Hein, je suis pas du tout, misandre. Vraiment, j'adore mes amis garçons, hétéros et pas hétéros, et bon genre et tout ce que vous voulez. Mais c'est juste que je ne veux plus partager d'intimité avec eux à ce jour. Voilà.
Le podcast, justement. Gamberge.
Oui, c'est Gamberge.
Gamberge, qui porte bien son nom. Qui porte bien
oui,
son
c'est
nom.
À Gamberge. C'est à Gamberge. Alors, je suis toute seule, j'ai des invités aussi.
Ouais, voilà. C'est très sympa. Je vous invite, chers auditeurs, à vous précipiter sur toutes les plateformes pour écouter tous les épisodes de Gamberge. On peut le voir en vidéo également sur TikTok.
Il y a des extraits. Alors, je poste pas tout parce que c'est trop lourd. Mais oui, je poste des petits extraits sur les. Récemment, j'ai posté l'extrait
avec Guillaume Meurice.
Avec lui, il s'en prend plein la gueule, mais il m'a dit qu'il assumait. Donc.
Oui, mais il aime bien en même temps, Guillaume Meurice. Il a l'habitude. Il a le dos large.
Là, je pense que.
Oui, là, je vais avoir Swann Périssé bientôt et Nash, la chanteuse.
Et d'où est venue cette envie de enfin, comme tu l'expliques dans le sommaire de ton émission, dans la présentation de ton émission, c'est pour aller à la découverte du monde, du regard
en fait,
des
le
autres.
Le processus créatif. Fait que les gens fassent des choses me passionne. Pourquoi faire ça et pas autre chose? Et du coup, j'ai des artistes, mais j'ai aussi reçu une archéologue qui a découvert que les Néandertaliens et les Homo sapiens sapiens s'étaient rencontrés. Enfin, c'est une découverte carte majeure et personne ne l'a invitée sur aucun plateau pour en parler. Elle est venue dans Gamberge. J'ai eu aussi la personne qui s'occupe des jardins royaux à Londres, c'est une Française qui s'appelle Solène Desquirel. Donc je suis allée là-bas, elle m'a fait visiter son jardin à Londres. Et ça me passionne des gens qui sont habités par leur discipline, comme Jean-Yves Fespier dont on parlait, l'astrologue. J'adore quand les gens ont une lueur dans l'œil et qui sont vraiment quand ils ont, comme s'ils étaient l'élu d'une discipline, qui, comme disait Charles Elie en début d'émission, c'est que vraiment d'aller vraiment jusqu'au bout, ça me fait exploser le cerveau. J'adore ça. Et
côté trop, finalement.
Oui, exactement. Encore trop, les gens trop. Waouh, c'est ça.
Fabien Olicard, Jean-Marc Dumontet, Salomé Sacquet, Jackie du Club Dorothée.
Très belle émission.
Oui, j'ai écouté ça avec plaisir parce qu'on va recevoir au mois de juin Jackie, on va le recevoir aussi. Et j'ai senti toute l'admiration dans ta voix, j'allais dire dans tes yeux, même si c'était du podcast sonore. Je sentais une admiration dans ton regard.
Il m'a fait un très beau cadeau en acceptant mon invitation. Ouais, parce que j'ai grandi avec lui. Et...
C'était une très belle émission.
Oui, je crois.
Qu'est-ce que t'apporte ce podcast ?
Le fait d'avoir... en fait, à chaque fois, je me prends une masterclass d'une heure avec quelqu'un. Parce que, imagine, j'appelle Jackie pour lui dire « Tu viens, on va parler une heure. » Il va dire « Je te connais pas. » non, tu... Alors que je lui dis « On vient faire un podcast. » Il va dire « Oui, là, c'est un cadre qui est professionnel. » Et je pense qu'il y a plein de gens qui acceptent parce qu'il y a un micro. Et moi, ça me permet d'avoir une masterclass, une expertise de quelqu'un d'extraordinaire pendant une heure. Tu parles de Jean-Marc Dumontet, quand même un des plus grands producteurs français théâtre, qui produit les Maxtals. C'est sûr que si j'avais dit « Est-ce que vous acceptez de prendre un café ?» Il aurait dit « J'ai pas le temps. » Là, je vous dis, il y a un podcast, etc. Là, oui. Et le podcast, d'ailleurs, est formidable. Enfin, je veux dire, il m'a fait lui aussi, il n'a pas été avare d'anecdotes et de confidences et de clés sur la créativité.
C'était formidable.
Juste avant de repartir en musique. L'amour sous algorithme, le livre de Judith Dupré.
Ah oui, mais j'en ai mentionné avant. J'en ai entendu parler, oui, effectivement. Ouais.
L'amour sous algorithme, et on se quitte avec Stéphane Escher.
Allez.
Près d'un fleuve, je suis né. Puis je flotte avec le flux dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc j'existe et je respire et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'étais un temps dans le coma, mais voilà, je me réveille et je vous apporte des fleurs, des chocolats depuis le trou du cul de l'enfer. Je réapprends à marcher, je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je vais être à nouveau surpris, je vais être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses. Et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal. Pas mal tout ça. Aussi loin que je peux, car chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment, aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Oui, je veux. Oui, je veux. Je reste éveillé la nuit, je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elles, quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel. Puis une batterie commence à battre, pousse le beat derrière ma tête.
une basse colle à la grosse caisse, une guitare de l'avant, et quelque part dans le néant siffle un arsène céleste. Et tout se met en mouvement, toute la salle balance, et j'attends des voix des anges, et tout le monde chante avec elle. Et chante now I'm in the darkness, baby, you're gonna be saved by rock and roll. Oh oui, je veux.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Le plus léger au monde, donc Stéphane Escher, encore un choix de Christine. Merci Christine Béraud pour ce moment à bord de notre paquebot.
J'ai adoré.
Le capitaine m'informe que la Terre est déjà en vue. Nous arrivons bientôt à New York.
Ellis Island est en vue.
Je te donne la parole. Tu...
Il n'y a pas la musique ?
Ah si, il y a la musique, mais si, le capitaine regarde la statue de la liberté.
Le capitaine fou est distrait, voilà. Comme d'habitude.
Tu voulais Vas-y, commence, Jack, la musique arrive. La musique
tu veux
arrive.
Poser depuis 40 ans ah oui, à Charlie Lee Couture. C'est ça
fait 40 ans que je voudrais, une question qui me taraude.
D'accord.
C'était dans le hall de Radio France, j'avais un appareil argentique couleur, et je vous ai vu arriver de loin, donc je l'ai mis verticalement. Et vous aviez un yo-yo à la main.
C'est possible.
Et j'ai fait la photo que j'ai donnée à Jean-Louis Foulquier et qu'il D'accord. a mis à la une d'un de ses magazines.
D'accord. Et alors
ben voilà,
c'est quoi la question?
Ben, je n'ai jamais retrouvé
le
magazine en question et la photo.
Ah, c'est une enquête, c'est pas une question.
Ouais.
C'est une
d'accord. Enquête. Je peux vous t'aider.
Ben, si, vous avez ça forcément dans vos archives.
Ah, sûrement, oui. Donc une photo que tu aurais prise.
Que j'ai prise.
Que tu as prise ouais. de moi avec un yo-yo.
Un yo-yo, bah, en couleur, verticale. Elle a été publiée dans Chanson Magazine.
Je confirme qu'à une époque, je passais mon temps avec un yo-yo.
Ah, essayer on se rapproche de la vérité.
Faire des loupes et des soleils.
On va tous enquêter, en tout cas, Jacques. On va s'y mettre. Même nos chers auditeurs, si vous retrouvez le numéro du
Chanson magazine avec Charlie Lee Couture
introuvable.
Mais quelqu'un doit l'avoir, Jacques. Quelqu'un doit l'avoir. On va le trouver. Ne t'inquiète pas, on va le trouver.
Un hommage aussi, Jacques, à,
ah oui, à
Dani,
qui était là, ici, il y a 3 ans, jour pour jour, et qui décédera 2 mois après. Et le 12 juillet, au Francofolie de La Rochelle, il y aura donc un hommage à Dani, avec Alain Chamfort, Calypso Valois, Émilie Marche, Emmanuel Seigné et Gilles Kaplan.
Et c'est sur sa voix que nous allons nous saluer dans l'agenda au programme. Alors Charles Lee, tu fais plusieurs conférences musicales,
oui.
Une bientôt le 24 mai à Saint-Quentin pour clôturer l'expo Un par an. Et le 8 juin à Saint-Malo avec Patrice Blanc-Francard pour le festival exact. Étonnant Voyageur.
Et puis quelques concerts aussi à annoncer. Tu seras le 6 juin à Meun-sur-Loire, le 11 juillet à La Croix, le 26 juillet à Bourges et le 8 août à Gordes. Les affaires reprennent.
Et la voix sera là.
Eh oui, bah oui, d'ici là.
Là, je fais une... Je sonne comme Dany.
Christine
en hommage Mérou. À Dany.
C'est ça.
En hommage à Dany. Christine Mérou, ton spectacle Trop est disponible toujours sur le site m6.fr.
Oui.
Ton podcast Gamberge également. Et on rappelle ton livre Le jour où j'ai rencontré le connard de Trop.
Écoutez.
On attend le prochain.
Écoutez les podcasts de Gamberge, de Christine Béraud, ils sont formidables, merci. Vous apprendrez plein de choses.
Mafalda vous recommande l'expo Douaneau au musée Mayol aussi, voilà, je pose ça là, comme on dit. Et nous nous retrouvons le mardi 3 juin à 15h, nous serons exceptionnellement à bord d'un autre type d'embarcation, la jonque chinoise, la Dame de Canton, et nous serons avec Astrid Fager. Et d'ici là, dépêchez-vous de rester jeune.
Dépêchez-vous de rester jeune.